Plaisance à Cajarc 97.7.
Il est midi, bon appétit, bienvenue, Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce mardi. Et bonjour à vous Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver les auditeurs avec dans un instant l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Ah bah oui, d'abord ce qu'il faut dire c'est que vous connaissez la nouvelle, Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. Alors ça c'est vraiment la nouvelle qui nous remplit de joie et vous allez voir que l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, eh bien il n'est pas très gonflé cette semaine mais il est rempli de joie. Comme d'habitude.
Voilà, ça sera dans la première partie de cette émission. Et puis dans la deuxième partie, on va parler économie avec vous et votre invité.
Oui, le professeur Jacques Lecacheux, il est professeur émérite d'économie à l'université de Pau et Pays de la Dour. Il va nous donner son analyse de la situation. Alors bien sûr, sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais vous avez bien remarqué aussi les prix du carburant. Il va nous dire ce qu'il en pense.
Voilà, il va nous livrer son analyse à midi et demi. À midi et demi également, c'est l'heure où on va retrouver le journal régional. Mais avant de retrouver le journal, voici les titres qui sont développés donc à 12h30, les titres présentés par Ginny Litsiab qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Dans le Gers, 17% des stations manquent de carburant, les prix flambent suite aux tensions au Moyen-Orient, une forte hausse qui perturbe les habitudes de consommation. Le chantier de la ligne C franchit une étape majeure à Toulouse. Le tunnelier passe sous la Garonne, une opération technique très attendue. La fin du dispositif à Montclar de Quercy. Les réfugiés ukrainiens doivent quitter les chalets cet été à la demande du préfet. Le stade toulousain convoqué devant la Ligue. Le club doit répondre d'un possible dépassement du plafond des salaires. Des sanctions restent possibles. Aveyron Motorhome lance une expertise à distance, un service pour éviter les arnaques lors de l'achat de camping-cars d'occasion. Près de Toulouse, à Loganet, Ronnie, 42 ans, un homme sans domicile retrouve un emploi recruté par le magasin devant lequel il mendiait. Il recherche actuellement toujours un domicile.
Merci à Ginny Litsiab, voilà, qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Ces titres seront développés tout à l'heure à 12h30 dans le journal régional. Et dans un instant, dans 3 minutes, on va vous retrouver à Anne-Rose Jankovic pour l'agenda.
Pour l'agenda du diocèse et puis d'autres nouvelles qui vont nous mettre en joie.
3 minutes juste après la voix
d'Aretha Franklin. You better
think. Voilà. Just stop. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with grease. It don't take too much IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. I don't think that your mind will let yourself be free.
Présence à foi 100.2.
L'agenda d'aller diocèse aujourd'hui, direction le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec vous, André Jankovic. Rebonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Et avant de détailler l'agenda des prochains jours, retour sur ce week-end pascal dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Oui, avec un coup de chapeau et puis vraiment une marque d'attention particulière pour les 30 adultes, un peu plus de 30 adultes, qui ont reçu le baptême au cours des vigiles pascales à Lourdes-Barousse, à Lannemezan, à Lourdes, à Bagnères-de-Bigorre, à Vic-en-Bigorre, à Tarbes, à la cathédrale, aussi à l'église Saint-Vincent-de-Paul et à Saint-Jean, en centre-ville de Tarbes, et puis du côté de Trie-sur-Baïse et Pouillastruc. Vous voyez qu'un petit peu partout dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, eh bien, il y a eu des baptêmes d'adultes au cours des vigiles pascales. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos de ces baptêmes sur la chaîne YouTube du diocèse Bigorre TV.
Allez, on me parle maintenant de l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes et on commence avec cette rencontre des serviteurs de la miséricorde. Ça sera ce dimanche.
Alors, c'est pas tout à fait ce dimanche, mais ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde et c'est l'occasion pour moi, de mettre le coup de projecteur sur ces rencontres des serviteurs de la miséricorde. Ça a lieu tous les troisièmes vendredis du mois de 14h à 15h30 dans le presbytère juste en face de l'église Saint-Vincent-de-Paul à Tarbes, dans le quartier de l'Aubadère. Alors, au programme, à chaque fois, c'est un temps de louange, méditation, En petite équipe, en frate, et puis la prière du chapelet de la miséricorde. On peut s'y joindre tous les mois, donc troisième vendredi du mois, ou de temps en temps, on peut venir seul, en famille, entre amis. En tous les cas, cette prière de la miséricorde, elle est ouverte à tous.
Dans cet agenda, vous avez souhaité faire un focus sur un temps de prière qui se déroule à Lannemezan chaque semaine.
Oui, effectivement, parce que c'est important de mettre en lumière les temps de prière qui sont proposés un petit peu partout dans nos territoires, dans nos villages, dans nos vallées. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler d'un temps d'adoration, l'adoration du Saint-Sacrement, qui est proposé chaque mercredi en l'église de Lannemezan de 9h à midi, après la messe de 8h30. Là encore, c'est ouvert à tous. Vous êtes vraiment invité à venir passer un petit peu de temps auprès de Jésus, de vous laisser toucher et consoler par le Seigneur. Donc rendez-vous chaque mercredi de 9h à midi pour adorer le Saint-Sacrement en l'église de Lannemezan et vous pouvez en parler autour de vous.
On va maintenant parler d'un temps fort pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. C'est cette journée diocésaine autour du bienheureux Pascal Vergès. C'est samedi 25 avril dans le sud du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Et oui, vous savez que le 13 décembre dernier, 50 martyrs de la Seconde Guerre mondiale ont été béatifiés à Notre-Dame de Paris. Parmi eux, bienheureux Pascal Vergès, un prêtre de chez nous, des Hautes-Pyrénées, de la Bigorre, et eh bien dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes depuis cette annonce et voilà cette béatification, eh bien nous découvrons peu à peu, de plus en plus, le visage de ce bienheureux de chez nous et la journée du 25 avril, samedi 25 avril, dans le village natal du bienheureux Pascal Vergès à Aucun, dans le Val d'Azun, sera pour nous l'occasion eh bien, de le connaître encore un petit peu plus et de le prier ensemble. Alors ce sera toute une journée diocésaine, tout un après-midi plutôt, avec à 15h une prière pour les vocations sur la tombe du bienheureux Pascal Vergès. Alors c'est au cimetière d'Argelès-Gazost, puisque c'est là que repose sa dépouille. Nous prierons, nous méditerons le chapelet avec notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mica, et tous les prêtres du diocèse, donc à 15h au cimetière d'Argelès-Gazost. Et puis ensuite à 16h30 à Aucun, en la salle des fêtes d'Aucun, il y aura une conférence donnée par Monseigneur Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes-et-Lourdes, sur la vie de bienheureux Pascal Vergès. À 18h, la messe présidée par Monseigneur Mica est chantée par la chorale diocésaine en l'église d'Aucun. Et puis, puisque c'est le village natal du bienheureux Pascal Vergès, il y aura l'inauguration d'une plaque mémorielle dans cette même église d'Aucun. Après la messe, eh bien, ce sera un temps festif, apéritif et tout ce qui va avec. Voilà, donc une journée diocésaine très importante, vraiment. Je m'adresse vraiment à tous les diocésains de la Bigorre et des Quatre Vallées. Ce samedi 25 avril, c'est important pour d'abord mieux connaître notre bienheureux Pascal Vergès, mais pour le prier ensemble et pour prier pour les vocations tous ensemble.
Voilà, samedi 25 avril, donc dès 15h, donc pour cette journée diocésaine autour du bienheureux Pascal Vergès. On aura bien entendu l'occasion d'en reparler avec vous dans les prochains jours sur Radio Présence.
Comptez sur moi.
On poursuit et on termine cet agenda avec la prochaine veillée de consolation. C'est le 26 avril, je crois.
Oui, exactement. Dimanche 26 avril, en la chapelle de Pietat, à partir de 16h30. D'abord la prière du chapelet, puis ensuite une veillée de prière, veillée de consolation. Consoler mon peuple à partir de 17h. C'est un rendez-vous qui a lieu chaque mois, à chaque fois dans un coin différent du diocèse. Au mois de mai, ce sera du côté de Maubourguet. Et le mois dernier, c'était à Lannemezan. Voilà, ces temps de prière qui sont là encore ouverts à tous. Donc le prochain dimanche 26 avril en la chapelle de Pietat à partir de 16h30.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous qui nous écoutez dans le diocèse et qui êtes organisateur d'un événement, eh bien il ne faut pas hésiter à vous communiquer cet événement pour que vous puissiez le relayer.
Exactement, communication@catholique65.fr. Vous nous envoyez l'info et elle est relayée bien sûr sur Radio Présence, également dans le bulletin diocésain, sur l'application, le réseau social Au Clocher et sur tous nos supports, notamment aussi le site internet du diocèse catholique65.fr. Donc n'hésitez pas, parce que à chaque fois que vous organisez quelque chose, même un petit temps de prière, même la prière du chapelet, même si vous êtes deux ou trois, eh bien dites-le nous, parce que ça fait du bien à tous de savoir que ici et là, eh bien des personnes se retrouvent pour prier.
Voilà, et ces annonces se retrouvent chaque semaine sur Radio Présence. Et grâce à vous, Anne-Rose Jankovic, un grand merci. Voilà pour l'agenda.
Présence à Montauban 93.3.
Et Anne-Rose, vous restez avec nous puisque dans quelques minutes, la suite de cette émission, ce sera avec votre invité. On va parler économie.
Oui, avec le professeur Jacques Lecacheux, professeur émérite d'économie à l'université de Pau et Pays de la Dour. Il va nous donner son analyse sur la situation économique dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et puis voilà cette flambée des prix du carburant. Il nous expliquera ce qu'il en pense et comment lui, il voit les choses.
Ça sera à suivre sur Radio Présence dans cette émission Présence Midi. Bon appétit avec nous.
Belle île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, Seymour, Ceylan. Vous, c'est l'océan qui vous sépare et vous laisse à part. Des souvenirs d'enfance, en France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'aime, café, léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. C'est l'eau.
La Belle et l'Île en Mer à l'instant de Laurent Voulzy.
Radio Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
La suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Oui, le professeur Jacques Lecacheux, professeur émérite d'économie à l'université de Pau et Pays de la Dour. Il nous donne son analyse de la situation économique dans ce contexte de crise et de guerre au Moyen-Orient. Alors bien sûr, depuis notre lorgnette, on voit les choses depuis les stations-service et les prix à la pompe. Mais il faut regarder ce qui se passe de manière un peu plus large, nous dit-il. Professeur Jacques Lecacheux.
Évidemment, le pétrole et le gaz, c'est ce qu'il y a de plus immédiat, dans ce sens que, comme vous le savez, à peu près 20% du gaz et du pétrole produit dans le monde passe par le détroit d'Ormuz. Et en plus, les pays qui sont directement voisins de l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., sont eux-mêmes des gros producteurs d'énergie fossile et aussi ont des grosses capacités de raffinerie, et l'Iran aussi. Et donc évidemment, le marché des énergies fossiles est extraordinairement perturbé par cette guerre. Ça, c'est le premier point. Bon, ça, tout le monde le sait, tout le monde a vu les répercussions aux stations-service, etc. Et puis, évidemment, des répercussions aussi sur l'ensemble de l'industrie, parce qu'évidemment, on pense d'abord aux automobilistes, mais il y a aussi quand même énormément d'industries partout en Europe qui dépendent directement du prix de l'énergie, et notamment qui utilisent beaucoup de gaz. Donc évidemment, toutes ces perturbations qui limitent les quantités disponibles sur le marché, faut augmenter les prix, c'est pas très surprenant, c'est une question d'offre et de demande. Et donc c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, les augmentations de prix du pétrole, des carburants, du gaz, et puis aussi indirectement évidemment de tout ce qui en dépend, c'est-à-dire les transports, et puis aussi les matières plastiques qui sont directement produites à partir des énergies fossiles, et puis les engrais par exemple pour l'agriculture, puisque les engrais sont produits aussi à partir de gaz essentiellement, Et donc tout ça a des répercussions en termes d'inflation, par exemple. On commence à voir au mois de mars, l'inflation s'est accélérée un peu partout en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Et c'est pire sans doute en Asie qu'en Europe, parce que l'Asie dépend encore plus que l'Europe pour ses approvisionnements en pétrole et en gaz de cette région-là.
Donc ça veut dire de toute façon que en raison de la mondialisation, eh bien cette situation, elle est inévitable.
Oui, elle est inévitable, pas seulement en raison de la mondialisation. Alors, évidemment, ça affecte beaucoup le transport, et notamment le transport maritime, parce que évidemment tout ça est très consommateur de carburants fossiles. Mais elle est inévitable aussi parce que nous sommes encore très dépendants des énergies fossiles. C'est aussi ça. Si on avait une économie entièrement électrifiée, par exemple, on subirait pas les conséquences de ce genre de choses.
Comment ça peut évoluer? Est-ce que ça peut être pire, et jusqu'où ça peut aller?
Alors, je suis pas sûr. Pire, ça m'étonnerait que ce soit bien pire, parce qu'actuellement, le détroit d'Ormuz est complètement bouché, et puis les capacités de production d'une partie de cette région sont à l'arrêt, notamment parce qu'elles ont été, certaines ont été endommagées ou détruites parce que l'Iran aussi est un gros producteur de pétrole et de gaz. Donc, ça peut pas être pire, mais ça peut durer relativement longtemps, même si la guerre s'arrêtait rapidement. Il y aurait d'abord tout un délai dans le redémarrage à la fois du transport et puis des capacités d'extraction, de raffinage, etc., qui ont été arrêtées. Et puis il y a eu quand même des dégâts, des destructions sur un certain nombre de ces usines, notamment de raffinerie et de liquéfaction de gaz, qui font que il faudra sûrement des mois voire des années pour qu'on retrouve les niveaux de production qu'on avait avant.
Et donc, tout ça, ces nécessités pourraient justifier que les prix continuent d'augmenter pour nous, petits consommateurs. C'est l'augmentation des prix.
Alors, je ne sais pas si les prix vont continuer d'augmenter, parce qu'en même temps, il y a quand même des capacités de production très importantes ailleurs dans le monde. Par exemple, les États-Unis seront un gros producteur et de pétrole et de gaz.
L'interdépendance économique.
Oui. Et puis l'Arabie Saoudite et un certain nombre d'autres pays ont déjà annoncé qu'ils allaient augmenter leur production. Ouais. Donc pour compenser en fait d'une certaine façon. Donc je serais quand même un peu surpris que les prix continuent à augmenter. Il y a une part aussi évidemment de spéculation hein, dans les augmentations de prix du pétrole et du gaz. On l'a bien vu, hein, il y a un certain nombre de spéculateurs qui, dès que la guerre a commencé, ont commencé à spéculer sur l'augmentation de prix. Et donc on a déjà une augmentation assez sensible. Et puis l'autre raison aussi, c'est que quand même l'Europe est moins dépendante. Si on regarde l'Europe elle-même, du coup, elle est quand même moins dépendante des énergies fossiles et notamment du gaz qu'elle l'était en 2022, par exemple, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mm-hmm. Donc ça nous rend un petit peu moins vulnérables, on va dire. C'est-à-dire que oui, elle l'est évidemment pour tout ce qui est directement pétrole, mais elle l'est moins pour l'électricité, par exemple, parce que vous voyez, en 2022, il s'est trouvé que au moment où la Russie envahissait l'Ukraine et où on a du coup eu cette envolée du prix du gaz, d'abord le prix du gaz a monté beaucoup plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et puis, à l'époque, on n'en importait pas des États-Unis. Maintenant, on en importe des États-Unis. Et puis, d'autre part, il se trouve qu'en 2022, en France, presque la moitié des réacteurs nucléaires étaient arrêtés pour maintenance. Hein. Et donc, on produisait pas. On produisait beaucoup moins que d'habitude. Et donc, il a fallu utiliser des centrales à gaz pour faire de l'électricité en Europe. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, EDF produit à plein régime, le nucléaire est entièrement opérationnel. La France exporte de l'électricité dans d'autres pays européens. Et donc, on est beaucoup, beaucoup moins dépendant. C'est pour ça d'ailleurs que le prix de l'électricité bouge pas tellement pour l'instant. Parce que on dépend pas trop du gaz pour l'électricité, en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle, au niveau mondial, elle entretient ou elle justifie notre désir ou notre besoin de souveraineté en France et puis peut-être plus largement en Europe.
Ah bah oui, certainement. Ça, je pense que c'est évident que moins on dépendra des importations d'hydrocarbures, puisque de toute façon l'Union européenne n'en produit pas. Hein. On importe tout ce qu'on consomme en matière de pétrole et de gaz. Et donc, moins on dépendra de ces deux sources-là, de ces deux énergies-là, et plus on sera à l'abri de tout ce genre de choses, hein. Ça, c'est sûr. C'est la grande, je crois que c'est le grand défi aujourd'hui de l'Europe. On a commencé, c'est la décarbonation et l'électrification. C'est-à-dire, plus on sera électrifié, et plus on se reposera sur des énergies, de type énergie renouvelable ou énergie nucléaire, et moins on dépendra des marchés mondiaux du pétrole et du gaz.
Tout à l'heure, vous parliez de spéculation. Ça profite à qui, en fait, tout ça? Concrètement, est-ce qu'il y a une puissance ou un pays qui en profite plus que tous les autres? Peut-être qu'ils sont plusieurs à en profiter plus que tous les autres.
Écoutez, oui, alors il y a les gros producteurs d'énergie fossile, les Américains, évidemment, hein, les Américains.
C'est les Américains qui en profitent plus que tous les autres.
Pardon?
Au final, c'est toujours les Américains qui en profitent plus que tous les autres.
Pas toujours, mais là, depuis quelques années, les Américains sont redevenus exportateurs d'énergie fossile, hein, et donc la demande qui s'adresse à eux augmente. Mais bon, les consommateurs américains, en même temps, subissent les augmentations des prix à la pompe aussi, comme tout le monde. Hein. le prix il est mondial. Donc il y a aussi des effets sur les consommateurs américains, mais disons que les producteurs américains et puis les plus généralement toutes les compagnies pétrolières, hein, évidemment elles en profitent. On a bien vu Total Energy a fait des profits extraordinaires en quelques jours, là plus d'un milliard de profits en quelques jours, etc. Oui, parce que évidemment eux ils sont bien placés pour acheter au bon moment et puis revendre beaucoup plus cher.
D'un point de vue consommateur ici pour nous en France, est-ce qu'il y a une bonne attitude à adopter? Est-ce qu'il faut se dire, bah mince, tout a beaucoup augmenté, tout peut continuer à augmenter, donc on diminue notre consommation, on arrête tout ce qui n'est pas indispensable, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, c'est bon de continuer à sortir, à avoir des loisirs, à partir en vacances? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation?
Bah, écoutez, d'abord, il faut pas paniquer, mais en même temps, tout le monde est contraint par ces problèmes d'augmentation des prix, notamment des prix des carburants. Hein. Si vous payez 120 ou 130 euros le plein de votre voiture, que vous payez précédemment 60 ou 70, bah évidemment, ça contraint votre pouvoir d'achat terriblement. Et un certain nombre de gens en France peuvent pas se passer de leur voiture, hein, notamment tous les professionnels. Et puis quand je dis la voiture, c'est aussi évidemment tous les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs, etc. C'est-à-dire toutes les professions qui utilisent du carburant fossile pour leur métier, tout simplement. Hein, les infirmières, les aides à domicile, etc. Et tous ces gens-là, ils sont bien obligés de continuer à rouler. Et quand ils ont des voitures thermiques, ils sont bien obligés de faire le plein avec les carburants fossiles. Et donc, ils subissent une amputation de leur pouvoir d'achat. Donc, pas tellement le choix de réduire leur niveau de vie et leurs autres dépenses, hein, pour la plupart. Mais évidemment, il faut essayer de...
Première fois qu'on est, alors on peut penser au Covid, mais peut-être à d'autres périodes, c'est pas la première fois qu'on est amené à changer nos manières de vivre, et puis bon, c'est dur un temps, puis soit on s'y habitue, soit finalement ça revient un peu à la normale.
Oui, ça revient à la normale, moi je pense que ça reviendra à peu près à la normale, mais évidemment, ceux qui ne subissent pas ça, c'est ceux qui ont des voitures électriques, par exemple, hein. Donc c'est quand même une grosse incitation, me semble-t-il, à électrifier le parc automobile, les transports, etc., etc., parce qu'on voit bien que ça vous immunise, et puis en même temps, ça fait faire des très grosses économies à l'Europe, hein, puisque tout ce qu'on importe, c'est de l'argent qu'on envoie au Moyen-Orient, aux États-Unis, etc., et que si on ne l'importait pas, on aurait cet argent-là pour faire autre chose.
Oui, et Dieu sait si la France a un petit peu besoin de regonfler un peu ses caisses.
Oui, bien sûr. Alors, c'est pas seulement les caisses de l'État, hein, mais c'est, je veux dire, la balance des paiements. On voit bien, la France a un déficit commercial énorme qui correspond. Une bonne partie de ce déficit, c'est les importations de pétrole et de gaz. Donc, si on n'avait plus besoin d'importer du pétrole et du gaz, on n'aurait pratiquement plus de déficit commercial.
Parce qu'on a, en attendant, la dette se creuse. Continue de se creuser.
Alors la dette, ça c'est autre chose. La dette, c'est la dette de l'État. C'est pas la dette de l'économie française. L'économie française n'est pas spécialement endettée, mais c'est l'État. L'État, comme vous l'avez vu, profite un tout petit peu de l'augmentation des prix du carburant, hein, puisque les taxes rapportent un peu plus. Pas tellement plus en fait, hein, parce qu'il y a une bonne partie des taxes qui sont fixées en euros par litre, hein, donc que le litre soit à 2 euros ou qu'il soit à 1,50 euro, il y a une partie des taxes qui sera exactement en carburant, sera la même chose. Et comme les gens restreignent un peu leur consommation de carburant, ces taxes-là vont quand même rapporter un peu moins, hein, à l'État. Donc, ce qui rapporte un peu plus, c'est la TVA et des taxes comme ça. Et donc, on a vu qu'au mois de mars, l'État a touché à peu près 200 millions d'euros de plus grâce, si je puis dire, à l'augmentation des prix du carburant.
Est-ce qu'on pourrait pas voir la chose d'un autre sens et se dire que s'il y avait un petit peu moins de taxes, eh bien, les Français continueraient à pouvoir aller travailler et vivre, donc faire fonctionner l'économie, et que du coup, ça aussi, ça bénéficierait à l'État, en fait, au lieu d'être plus taxé et réfréné dans nos activités. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'on soit moins taxé pour pouvoir nous encourager à continuer à travailler, à vivre, à consommer?
Bah, c'est ce qu'on fait un certain nombre de pays, hein. L'Italie, par exemple, a baissé ses taxes, mais seulement jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire à partir de demain. C'est très, très coûteux pour le budget d'État baisser les taxes, hein. Du coup, ça ferait des recettes, beaucoup de recettes en moins. Et ça compense, je pense pas que les effets induits compenseraient. Et puis, il y a un autre problème quand même, si vous voulez, c'est que les taxes, elles sont quand même là pour essayer d'inciter les consommateurs à consommer moins d'énergie fossile. Donc, si on commence à baisser les taxes à chaque fois que le prix du pétrole augmente, eh ben, on passera jamais à un autre régime que le régime thermique, quoi, et le régime fossile. On décarbonera jamais, quoi. Donc, et c'est ça le danger, en fait. Et en plus, quand on baisse les taxes, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça soutient la demande de carburant, et qui va profiter? Ben, ceux qui exportent des carburants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on faisait des cadeaux à l'Arabie Saoudite, aux États-Unis, à tous les producteurs de pétrole. L'État français leur dirait, bah, tiens, je vous donne tant de millions. Voilà. C'est quand même dans leur poche que ça va au bout du compte, hein. Alors, les consommateurs, ils vont juste payer un tout petit peu moins cher, donc ils vont consommer un peu plus, et comme ils vont consommer un peu plus, bah, ça va aller dans la poche, je vous dis, des producteurs de pétrole. Ce qui est pas très moral, à mon avis.
Voilà, et merci donc à André Jankovic qui a réalisé cette interview. Vous venez d'entendre donc professeur Lecacheux, professeur émérite d'économie.
Présence à Montrégeau, 94.1.
Bon appétit, 12h et quasiment 32 minutes sur les pendules de Radio Présence. Voici le journal régional, un journal présenté par Jenny Litsiab, qui est étudiante au sein de l'ISJT de Toulouse.
Les prix du carburant grimpent dans le Gers suite aux tensions au Moyen-Orient. 17% des stations manquent de carburant. 9 d'entre elles subissent une rupture partielle. Le gasoil disparaît en priorité. Le litre dépasse 2,30 €. Les familles réduisent leurs déplacements. À Toulouse, le tunnelier de la ligne C franchit la Garonne cette semaine. Les équipes réalisent un passage souterrain sous le fleuve. Ils creusent actuellement un tunnel de 4,2 km entre les futures stations Pont-Jumeau et puis La Porte. Avec ce franchissement, près de 12,5 km des 22 km de galeries souterraines ont désormais été réalisés. Cette avancée marque une étape clé du chantier du métro. La future ligne doit améliorer les déplacements dans l'agglomération. L'État annonce la fin du dispositif à Montclar-de-Quercy. Depuis 2022, ce système loge des réfugiés ukrainiens dans des chalets. L'État finance l'hébergement. Des associations accompagnent les familles. Une soixantaine de personnes vivent encore sur place. Le préfet demande un départ cet été. Les familles cherchent un logement et un travail. L'État veut sortir de l'urgence. Le Stade toulousain passe devant la commission de discipline. La Ligue nationale de rugby convoque le club le 26 mai à Paris. Les dirigeants doivent répondre d'un dépassement du salary cap. Ce dispositif fixe un plafond pour les salaires des joueurs. La Ligue contrôle les comptes pour garantir l'équité entre clubs. Elle peut prononcer une amende ou retirer des points. À Launaguet, Ronny Gornick, 42 ans, SDF recruté par le magasin devant lequel il faisait la manche, embauché en CDI, il assure la mise en rayon et la caisse. Il doit toucher son premier salaire à la fin du mois. Mais il continue de dormir dans une tente près d'une maison abandonnée et cherche un logement décent.
Voilà pour le journal régional. Merci à Jenny Litsiab, qui est étudiante au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info dans une demi-heure avec la rédaction française de Radio Vatican. Et dans quelques minutes, André Jankovic, on vous retrouve. Vous étiez à Lourdes il y a quelques jours.
Oui, le 19 mars dernier, Nkaza a fêté ses 5 ans. Nkaza, c'est un lieu de vie pour les personnes en grande précarité.
Merci, c'est juste après la voix de Suzanne Vega qui nous accompagne en musique.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what.
C'était la voix de Suzanne Vega avec sa chanson Luca.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Et la suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic. Vous étiez en reportage, Anne-Rose, il y a quelques jours à Lourdes.
Oui, jeudi 19 mars, Nkaza a fêté ses 5 ans, impulsé par Lucia et Palmino Paolucci, qui sont membres de la communauté Jean 23. Nkaza, c'est un lieu de vie qui prouve que vraiment tout est toujours possible. En témoignent des personnes qui sont passées par cette maison, des personnes qui sont arrivées dans cette maison en situation de grande précarité, qui ont pu en repartir avec des perspectives de vie. Parce que le but d'Nkaza, c'est ça, c'est de pouvoir, comme un tremplin, repartir avec des projets. Aujourd'hui, Nkaza, c'est 11 appartements, 32 résidents, des familles, des personnes seules et puis des bénévoles, de nombreux bénévoles. Je vous propose eh bien, d'entendre les témoignages à l'occasion de cet anniversaire des 5 ans. J'ai poussé les portes de la maison Nkaza, j'ai ouvert le micro et vous allez entendre Muriel qui fait de la couture, Gaït qui est un résident, Claire qui est bénévole depuis les premiers instants et puis Palmino qui est donc cheville ouvrière de cette maison.
Voilà. Muriel, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous faites ici à Nkaza.
Alors, tous les lundis de 15h à 18h, nous cousons. Nous cousons en papotant, enfin, nous papotons en cousant plus que nous cousons en papotant. Enfin, chacun arrive avec une idée, un petit projet, et puis on le fait tout ensemble.
Voilà. Et quand vous dites chacun, c'est qui ?
Chacune. Tout le monde est accueilli ici à Nkaza, le lundi, tous les lundis. Pendant l'année scolaire, pas pendant les vacances, tous les lundis de 15h à 18h, tout le monde peut venir ici pour suivre et faire un petit projet de couture.
Donc c'est ouvert aux résidents d'Nkaza qui sont une trentaine, enfin en comptant les enfants,
oui.
et des gens de l'extérieur. Moi-même, je peux venir à un atelier couture avec vous et partager cet atelier couture avec les résidents d'Nkaza le lundi.
Ah mais on prend date, Anne-Rose. On inscrit ça sur l'agenda, bien sûr, tout le monde peut venir.
Pourquoi vous faites ça, Muriel ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être présente le lundi pour coudre avec des personnes que vous ne connaissiez peut-être pas avant ?
Alors moi d'abord, j'aime énormément coudre et puis j'aime la rencontre, j'aime le contact. Mon mari Alain fait partie d'Nkaza, il est trésorier. Et donc c'est tout naturellement que j'ai proposé mon aide et que je continue depuis le début de cette belle aventure. Et c'est très agréable.
Et c'est quoi l'esprit de cette maison pour vous ?
C'est l'accueil inconditionnel de tous, indépendamment du milieu social, de l'origine, de l'histoire. En fait, on ne pose pas de questions, on est là, on se rend. En fait, c'est la rencontre, voilà. Et c'est une rencontre vraiment du cœur, donc qui se passe toujours très très bien.
Alors, je me pose une petite question quand même, c'est que tout le monde ne parle pas français ici à Nkaza. Comment vous faites pour donner des instructions en matière de couture ? Do you speak English very well ?
Ben, si je speak English, tout le monde ne parle pas en English. Alors en fait, il y a quelques résidents, peu, parce que la couture reste quand même un loisir qui est cher. Hein, le fil, les patrons, etc. Mais souvent, les résidents viennent nous demander de l'aide pour faire des ourlets, pour raccourcir des robes. Voilà. Donc on arrive à se comprendre avec le sourire et les paroles. D'ailleurs, il y a un jeune homme, Gate, que vous pourriez interroger, qui quand il est arrivé ici, a fait des tote bags. Maintenant, il travaille, mais au début, il faisait des tote bags. Et lui, il est tunisien. Donc tout le monde, voilà, tout le monde peut venir, avec ou pas un niveau de couture.
Eh ben merci voilà. Muriel. Bonjour Gaït, je suis journaliste pour Radio Présence et la dame que vous voyez là-bas, Muriel, m'a dit que je pouvais vous interviewer. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ?
Bonsoir tout le monde. Je suis Gaït Feriani. Je suis d'origine tunisienne. J'habite à Casa. Ça fait trois ans. Et désolé, je ne parle pas comme une fois le français. J'ai fait des fautes, des orthographes. Mais oui, ça fait... Salut, bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour.
Et visiblement, voilà. Vous êtes bien intégré.
Exactement, j'ai fait le maximum, il faut. C'est ça, la vie de partager ici, il faut adapter, il faut partager avec tout le monde, que ce soit la culture, la langue. Et c'est ça, Casa, comment on vit ici.
Vous travaillez à l'extérieur?
Non, pour ce moment, je ne travaille pas. Mais voilà. On essaye de régler la situation, j'espère.
Et donc Nkaza, c'est aussi une structure qui vous aide et qui vous accompagne dans votre recherche de travail.
Il y a des gens qui la situation civique n'est pas comme il faut. Donc ici, on trouve le soutien, on trouve les gens, on trouve deuxième famille aussi. Donc ça fait du bien, franchement, d'être ici. Et c'est une grande journée. Et bienvenue chez nous.
Voilà. Merci. Alors, dites-nous un petit peu quel est l'endroit qu'on peut visiter, ou dites-moi ce que vous me conseillez d'aller voir ou rencontrer pour bien connaître Nkaza.
Pour bien connaître Nkaza, il faut discuter avec les responsables. Et voilà, franchement, merci. Ça fait du bien, avec plaisir.
Merci, Gaït.
Merci beaucoup.
Voilà, alors Claire, vous aussi, vous êtes bénévole à Nkaza. Ma question est toute simple, Claire. Vous faites pas mal de choses déjà dans votre vie, pas mal d'engagements. Pourquoi Nkaza? Pourquoi, en plus, cet engagement à Nkaza? Qu'est-ce que ça vous apporte? D'abord, qu'est-ce qui vous a amené ici?
Alors, Nkaza, l'engagement dans Nkaza, ça n'a pas été en plus. Parce que ça a été l'année où j'attendais pour prendre ma retraite. Et où plusieurs personnes sont venues me voir en me disant « Il y a une nouvelle association qui se crée, tu vas être à la retraite, tu vas avoir du temps. » Donc, voilà. Est-ce que tu veux t'engager dans ce projet ? Après réflexion, et c'est vrai que le problème du logement des personnes qui arrivaient à Lourdes, qui ne trouvaient pas de logement, c'était un problème que je rencontrais régulièrement quand j'étais à la paroisse de Lourdes, où des gens frappaient à la porte disant « Vous êtes la paroisse, est-ce que vous n'avez pas des logements ?» Donc on conseillait certaines personnes, on avait une liste de gens avec des possibilités de logement, mais bon, c'était toujours très difficile de trouver des logements parce que sur Lourdes, c'est quand même difficile de se loger quand on arrive comme ça et qu'on n'a rien.
Et c'est quelque chose qui a résonné en vous, qui rejoignait des réalités que vous connaissiez.
Effectivement, donc j'allais partir à la retraite, donc je me suis dit, j'aurai du temps. Donc j'ai dit oui pour aider Palmino à créer tout l'aspect administratif, la déclaration des statuts, enfin tout ce qui était administratif, j'ai aidé, je suis rentrée dans l'association. Et puis tout doucement.
Et vous êtes encore là 5 ans après la création?
Et 5 ans après, je suis toujours là, voilà, accompagnée, à être présente dans la maison quand il y a besoin. Et voilà.
Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne se lasse pas d'un lieu comme ça? Que 5 ans après, vous avez le sourire, que vous êtes heureuse d'en parler, que manifestement vous êtes heureuse de venir ici plusieurs fois par semaine. Pourquoi?
Alors, d'abord parce qu'Nkaza, c'est jamais la même chose. Il y a des endroits, on y va, on ronronne et là. Non, Nkaza, c'est une surprise à chaque fois.
Il n'y a pas de routine.
Ah, il n'y a absolument pas de routine, que ce soit dans l'accueil des gens, dans ce qui se passe dans la maison. C'est jamais la routine. Donc, à chaque fois qu'on franchit la porte d'Nkaza, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. On veut trouver des gens qui, ce jour-là, ont des soucis, des gens qui ont besoin de discuter, il y a des gens qu'on a besoin d'accompagner ou qui. Voilà. Mais il y a toujours où on trouve une fête, d'un coup, on arrive et on est en train de fêter un anniversaire. Nkaza, c'est la surprise à chaque fois qu'on franchit la porte. Donc voilà, il n'y a pas de routine, donc c'est pour ça que je suis encore là.
Aliénor disait qu'il y avait besoin d'un petit coup de pouce financier. Elle habilement lancé un appel aux dons pour soutenir en matière de logistique. Elle a parlé d'un lave-linge notamment. Est-ce que vous avez aussi besoin de bénévoles? Parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'ateliers, couture, jeux de société, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider d'un point de vue humain? Si on ne peut pas vous aider en faisant un don financier, est-ce qu'on peut venir vous aider d'une autre manière?
Ben oui, au niveau humain, on a toujours besoin. Ben ça, si les gens ont une compétence particulière et qu'ils peuvent venir, ils peuvent venir nous rencontrer, nous dire ben, Là, il n'y a pas longtemps, on avait besoin de repeindre une partie de la maison parce qu'on commençait, ça commençait à se défraîchir. Bon, ben, si quelqu'un dit, ah ben tiens, une après-midi, je peux venir et passer un coup de peinture ou nous aider matériellement, je ne sais pas, pour réparer quelque chose qui est cassé dans une chambre. Voilà, c'est des petites choses toutes pratiques, mais qui ne demandent pas beaucoup de temps. Mais bon, nous, on est toujours preneurs.
Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut venir vous aider de manière ponctuelle sans se dire, mince, si je m'engage, je ne vais plus pouvoir faire autrement.
Alors, tout à fait, tout à fait. Il y a l'engagement, oui, les ateliers qui reviennent toutes les semaines. Là, c'est régulier, il faut un certain engagement pour s'y tenir toutes les semaines. Même si que, quand les gens partent en vacances, eh bien, ils partent en vacances. Hein. On dit, bon, cette semaine, il n'y aura pas d'atelier. Et puis voilà, chacun est libre. Mais voilà, mais on peut aussi ponctuellement dire, bah, tiens, moi, j'ai cette compétence. Est-ce que je peux vous aider? Et nous, on est toujours preneurs.
Et roulez jeunesse. Allez, voilà. dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nkaza pour les 5 ans qui viennent? Dans 5 ans, on reviendra faire la fête.
Eh bien, si dans 5 ans, je suis toujours là, et voilà, j'espère qu'on continuera et qu'on pourra continuer pendant 5 ans encore.
Merci beaucoup, Claire. Je voudrais juste savoir, Palmino, si Nkaza, aujourd'hui, 5 ans après son ouverture, c'est le Nkaza que vous aviez rêvé. Est-ce que c'est encore mieux ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire?
Alors, merci pour la question, parce qu'elle me fait réfléchir à moi aussi. J'aurais jamais pensé qu'Nkaza pouvait devenir comme ça. Elle est loin des rêves originaux, mais elle est beaucoup plus belle.
Ah, c'est bon, ça veut dire que vous avez dépassé le rêve.
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Surtout parce que c'était un rêve italien et ça, c'est une réalité française, qu'elle est différente de l'Italie. Et voilà, ça c'est la première chose. Et s'il manque des choses, il manque, oui. Dans ma tête, mais dans les rêves, il faudrait une maison, 2-3 places ailleurs pour préparer les gens qui demandent d'intégrer Nkaza et une autre petite maisonnette pour aider à sortir, parce que Nkaza c'est un tremplin, voilà. Ça aide.
Il manque une transition, c'est ça, vous voulez dire. Avant et après, il manque une transition.
Oui, mais ils ne doivent pas le faire Nkaza. S'il y a d'autres personnes qui ont rêvé pareil, pourquoi pas, on fait partie.
Mais aujourd'hui, sans ces lieux de transition, ça marche pourtant.
Oui, mais tout ça marche, mais tout se peut améliorer.
Tout se perfectionne.
Voilà.
Même à Nkaza, quand on voit comme ça, aujourd'hui, alors que ce sont les portes ouvertes, on a l'impression que tout est déjà parfait.
Il manque toujours.
Des petites choses, des améliorations. Après, on doit dire que on a choisi aujourd'hui vraiment pour remercier Saint-Joseph. On l'a vraiment prié en genoux, mais vraiment en genoux, voilà.
Et il vous a écouté, il vous a exaucé. Il a intercédé pour vous.
Il a intercédé, oui.
Voilà. Merci Palmino.
Voilà, merci à Palmino et merci aussi à Anne-Rose Jankovic, voilà, qui a réalisé ce reportage à Lourdes à l'occasion donc des 5 ans de cet établissement qui s'appelle Nkaza. Allez, à suivre dans un instant sur Radio Présence, on va rester à Lourdes puisque c'est Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes qui va nous rejoindre. Avec lui, on va parler du gâteau à la broche, on va parler notamment de la recette et de l'histoire de ce gâteau bien connu dans les Pyrénées.
Présence à Luchon, 94 FM.
Sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Sans amour, à quoi bon rire?
Dans cette chronique balade en Pays de Lourdes, on va parler du gâteau à la broche avec Laurent de l'Office de Tourisme. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Gâteau à la broche ou rocher des Pyrénées. On va donc parler de ce gâteau et on va commencer avec l'origine de ce gâteau. Alors là, il y a un débat. C'est ce que vous m'expliquez.
Il y a un débat. Il y a même des petits conflits, on va dire, parce que effectivement, les origines sont pas certaines. Donc voilà, on pense en fait qu'il aurait été ramené de Russie ou de Pologne par les soldats napoléoniens. Donc il y a aussi un débat sur l'apparition du gâteau à la broche, parce qu'il est effectivement chez nous en Haute-Pyrénées et en Bigorre, en fait, bigourdan aux Pyrénéens, mais dans le monde pas que. Voilà, on trouve des traces en fait dans les années 1790 côté roi de Prusse. On en trouve en fait aussi en Pologne un petit peu avant avec la reine de Pologne et la grande duchesse de Lituanie. Voilà, donc c'est un peu contesté, et même en France, on va dire que des fois, certaines régions de France aussi revendiquent une paternité de ce gâteau. Voilà. Mais bon, rentrons pas dans le débat et allons peut-être plutôt dans ce qui représente et dans ce qu'il est chez nous.
Avant de parler de la recette, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent un peu loin, est-ce qu'on peut décrire ce gâteau? Il est parfois impressionnant, des fois il est très grand.
Exactement, donc c'est un gâteau qui a une forme conique avec plein de petites aspérités sur les côtés. C'est un peu comme des gouttes en fait, des petites gouttelettes sur les côtés. Ça ressemble, alors oui, on peut appeler ça un rocher, on l'appelle aussi le rocher des Pyrénées. Certains lui trouvent une forme de sapin, on va dire. Voilà, donc c'est un grand gâteau conique.
Voilà. Alors un mot donc de cette recette, après avoir parlé donc de la forme, il faut pas mal d'ingrédients et de bons ingrédients en quantité.
Exactement. Alors déjà, il n'y a pas une recette, mais plusieurs recettes, parce qu'on est là encore dans une tradition familiale. Donc chaque famille se repasse un peu sa recette, on va dire maison typique et forcément la meilleure. Mais globalement, voilà, on trouve en fait, je vais pas donner les quantités, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais on trouve quoi ? Des œufs, du beurre, de la farine, du sucre. Un peu de rhum quand même, certains vont ajouter d'autres alcools, et en général on peut rajouter du parfum à la vanille, de l'extrait de gousse de vanille, ou certains vont mettre aussi un peu de fleur d'oranger. Bon, une fois de plus, voilà, il y a pas une recette unique, mais voilà en gros ce qu'on peut retrouver comme ingrédient.
Alors pour fabriquer ce gâteau, eh bien vous l'avez dit, il faut un moule conique.
Alors voilà, on va préparer sa pâte en amont, donc on va préparer la pâte avec les ingrédients que j'ai évoqués. Donc voilà, une fois que c'est prêt, on prépare donc ce moule conique. Alors historiquement, il était plutôt en bois. On va l'envelopper de papier pour pas que ça tâche sur le bois, et on va le saucissonner un petit peu comme un rôti, de façon à ce que le papier soit bien maintenu sur le moule. Ce moule, on va le mettre au-dessus en fait idéalement en fait, historiquement c'était plus un feu de cheminée, un feu de bois. Voilà, et on va tourner en fait ce moule en fait avec la broche. Au-dessus du feu, et on va venir verser avec une louche en fait cette pâte de façon régulière, la faire durcir dans une première étape, et une fois qu'elle va durcir, revenir ajouter en fait des couches progressivement tout en tournant. Donc ça prend du temps. Alors on met un réceptacle aussi un peu en dessous du moule, hein, de façon à récupérer toute la pâte qui va couler, et à venir la remettre en fait sur le moule par couches successives. Et ça, alors selon la taille du gâteau, selon la recette et selon le temps, ça peut prendre pas mal de temps effectivement. On parle de une heure et demie, deux heures. Enfin voilà, ça dépend un peu de la taille du gâteau.
Voilà, soit on tourne manuellement, soit on utilise un petit moteur électrique pour.
Oui, alors là aussi, chacun a trouvé un peu ses systèmes. Voilà. Historiquement, c'était fait manuellement, mais et certains y prenaient beaucoup de plaisir à réaliser ça en famille, à méditer devant le feu, à tourner. Bon, mais il y en a pour des aspects pratiques qui l'ont un petit peu effectivement rendu mécanique aujourd'hui.
Vous parliez de famille, et c'est vrai que c'est un gâteau que l'on fait souvent à l'occasion de fêtes, hein, puisqu'il y a de nombreuses parts dans un gâteau à la broche.
Alors, chez nous, hein, en Haute-Pyrénées, et notamment en Bigorre, c'est plus qu'une simple pâtisserie. En fait, c'est vraiment une tradition familiale, un héritage culturel et gastronomique du territoire. Donc, ça vient accompagner des temps forts. Voilà, donc dès qu'il y a, on va dire, une fête, un événement, bah oui, on va ressortir un gâteau à la broche, on va faire un gâteau à la broche ou l'acheter. Donc, ça peut être pour un baptême, pour un mariage, pour une réception familiale, quand on, voilà, quand on réunit toute sa grande famille. Voilà, c'est un vrai trésor culinaire local.
Et dans les familles, on connaît tout le temps quelqu'un qui fait le gâteau à la broche dans sa famille. Mais si oui. On n'a pas dans sa famille quelqu'un qui fait le gâteau à la broche, on peut l'acheter.
Alors on peut l'acheter. On va le trouver à Lourdes au marché sans aucun souci. On a pas mal de gens qui vont le vendre en fait en boulangerie-pâtisserie ou chez des gens en fait qui vendent du produit du terroir. Voilà, à Lourdes et autour de Lourdes, on peut trouver assez facilement des lieux où il y a des très très bons gâteaux à la broche.
Voilà pour le gâteau à la broche, hein, ce gâteau traditionnel. Un grand merci Laurent pour cette balade gastronomique aujourd'hui. Et puis on se dit à très bientôt dans le pays de Lourdes. À bientôt Laurent, l'office de tourisme de Lourdes.
Merci Gilles, à bientôt.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'office de tourisme de Lourdes.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Dans l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler. Je me la demanderai, je renierai ma patrie. La vie t'arrache à moi. Si tu veux que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons
présence à Pau 96. Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La présidente de l'opposition taïwanaise Chen Wen en visite historique en Chine avec un